Vous écoutez, on lit pour vous.
Mastomie, je la porte sans gêne. Un texte de Camille Lemay, paru le 31 janvier 2025 dans la presse. Récemment, à heure de grande écoute, ma communauté et moi avons vécu un nouveau choc alors que se dénouait dans Stat l'intrigue du patient gravement blessé en jouant au paintball. Pour la seconde fois depuis le début de la quotidienne, un personnage se retrouve avec une stomie. Une déviation de l'intestin permettant aux sels et aux gaz d'être évacués dans un sac collé sur l'abdomen. Pour la seconde fois, les stomies ont été décrites visuellement et verbalement comme quelque chose de honteux et de dégoûtant. Je mentionne l'émission Stat ici, mais d'autres séries et d'autres livres sont aussi tombés dans le piège de la facilité et du dégoût par le passé. Je pense entre autres à Grey's Anatomy, à la web-série Géolocaliser l'amour, au roman Mille secrets, mille dangers. Le cas de Stat ne fait pas exception. Il ne fait que suivre la lourde tendance à l'ostracisation. La beauté derrière le sac. Comme plus de 14 000 personnes au Québec, je vis avec une stomie. Cette déviation de mon intestin m'a sauvé la vie en 2021 quand ma maladie de Crohn est devenue impossible à maîtriser. À mon réveil à l'hôpital, je n'étais ni dégoûté ni effrayé. J'avais hâte de voir ce petit bout d'intestin et cette poche qui allait me permettre de recommencer à manger, travailler, voir des amis, jouer à la balle molle, voyager, faire l'amour. Cette poche, qui est la cause de tant de mépris, allait me redonner une vie normale. Or, tous n'ont pas cette chance. Dans les communautés en ligne, il est souvent question du rejet que vivent les personnes stomisées. En octobre 2024, lors d'un panel international regroupant des femmes stomisées francophones, on apprenait qu'à l'échelle mondiale, une proportion importante des couples se séparent après une telle opération. De nombreuses personnes stomisées se retrouvent aussi isolées, par honte ou incompréhension de la part de leur entourage. Tout cela pour un simple sac? Malheureusement, oui. Mais nous pouvons changer la donne. Une différence comme une autre. Je vois le milieu culturel se mobiliser depuis plusieurs années pour une plus grande diversité à l'écran. On y affiche des personnages de toutes les origines ethniques, de tous les gabarits et présentant toutes sortes de handicaps visibles ne limitant pas la vie des gens. Pourquoi serait-ce différent pour les personnes vivant avec une stomie? Pourquoi la stomie est-elle constamment abordée comme la pire atrocité qui puisse arriver à quelqu'un? C'est en martelant un tel message que l'on contribue aux problèmes de santé mentale et d'isolement dont souffrent les personnes stomisées. Et si nous pouvions changer la donne en modifiant le discours ambiant, en le rendant léger, inclusif et informatif? C'est ce que plusieurs d'entre nous tentent de faire. J'ai une pensée pour Sarah, superbe mannequin portant fièrement une stomie, à Jacques, qui s'investit depuis plus de 50 ans à soutenir les personnes stomisées de sa région, à Mélodie, qui, du haut de ses 12 ans, parle de sa stomie, framboise, à qui veut bien l'entendre, et à toutes les autres personnes que j'ai reçues à l'émission Balado, deuxième porte à gauche. Mais tous ces efforts perdent en force si le discours populaire demeure ancré dans une mentalité méprisante de notre condition. À nos auteurs, nos producteurs, nos diffuseurs, je lance le message suivant : élargissons notre discours. Trouvons un moyen de parler de stomie de manière décomplexée et respectueuse. À vous qui lisez ces lignes, ne soyez pas navré que nous vivions avec une stomie. Vous pouvez cependant être désolé que nous ayons été suffisamment malades et souffrants pour qu'elle devienne nécessaire. C'était « Ma stomie, je la porte sans gêne », un texte de Camille Lemay, paru le 31 janvier 2025 dans la presse.
Province sur les parcs de maisons mobiles. Un texte de Marco Fortier paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. En ouvrant leur courrier, Jacques Cloutier et Daniel Dubé ont eu la surprise de leur vie en janvier 2024. Une lettre les avisait qu'ils devraient déménager la maison mobile où ils vivent depuis 12 ans à Saint-Constant en Montérégie. Le couple et ses 24 voisins ont appris que le propriétaire du terrain où ils ont installé leur maison allait les évincer pour construire 200 appartements. « Comme on dit en bon québécois, ils nous crissaient dehors », lance le retraité de 72 ans qui a travaillé la plus grande partie de sa vie dans la vente d'automobiles. C'était un choc. On se disait « On va où? On va tout perdre ?» raconte Jacques Cloutier, attablé dans sa cuisine. « On cherchait un terrain pour déménager notre maison, mais il n'y en a plus nulle part. » Des histoires comme celle-là surviennent un peu partout au Québec. Les maisons mobiles représentent une des dernières formes de logement abordable en cette ère d'explosion des prix de l'habitation. Mais ce type de domicile est une espèce menacée. Les propriétaires de maisons mobiles louent généralement le terrain sur lequel ils installent leur chez-soi. La tentation est grande pour les propriétaires des terrains de vendre leurs terres à des promoteurs qui construisent des immeubles d'appartements. Il suffit pour cela d'expulser les locataires qui ont peu de recours légaux. C'est ce qui se produit à Saint-Constant. Le parc de 25 maisons mobiles, qui ressemble à un terrain de camping en pleine ville, sera bel et bien converti en immeuble de 200 logements. Jacques Cloutier, Daniel Dubé et leurs voisins de la rue du Parc des Maisons Mobiles ne perdront toutefois pas leur habitation. Le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, s'est engagé à trouver un terrain où ces 25 familles pourront déménager leur maison. Et il a tenu parole. Un maire à la rescousse. J'ai rencontré les gens et j'ai compris leur inquiétude. Ils ont acheté leur maison sur un terrain qui ne leur appartient pas. Ils ont essayé longtemps de se relocaliser, mais ils ne trouvaient pas d'endroit. Je me suis dit, mon Dieu, ces gens-là risquent de tout perdre, ça n'a pas de bon sens, raconte le maire Boyer. Lui et son équipe ont déniché un terrain dans le rang Saint-Christophe, près de Saint-Rémy, la municipalité voisine. Il s'agit d'un îlot déstructuré, une zone où les résidents sont autorisés sur des terres agricoles. La ville de Saint-Constant compte acquérir le terrain, déménager les maisons mobiles et y aménager les services municipaux au coût d'environ 11 millions de dollars. Québec paiera la moitié de la facture. Les 25 propriétaires des maisons mobiles loueront leur parcelle de terrain à un coût estimé entre 400 dollars et 600 dollars par mois, un prix nettement plus élevé que leur loyer actuel de 225 dollars par mois. Du moins pour Jacques Cloutier et Daniel Dubé. Le couple ne tarit pas d'éloge envers le maire Boyer, qu'il considère comme un véritable sauveur. C'est un homme de cœur qui a tellement d'humanité. Sans lui, on aurait tout perdu, lance la retraitée de 68 ans qui a fait carrière comme éducatrice en service de garde. Jean-Claude Boyer affirme que la densification, le fait d'ajouter des logements au cœur de la ville, est un incontournable, surtout près des accès aux transports en commun. Le parc de 25 maisons mobiles qui cédera la place à 200 logements est situé à 1 kilomètre de la gare de Saint-Constant, ce qui est susceptible d'augmenter l'achalandage dans les transports collectifs. La densification ne doit pas se faire aux dépens des droits des résidents vulnérables, précise le maire. De moins en moins abordable, Jacques Cloutier a acheté sa maison mobile pour la somme de 94 000 $ en 2013. Il en avait assez de payer des frais de copropriété exorbitants pour son appartement à Brossard. Lui et sa conjointe n'ont jamais regretté leur choix. Ils sont chez eux. La lumière du jour entre par les fenêtres des quatre côtés de la maison. Pas de voisins collés ou au-dessus de la tête, comme dans un immeuble d'appartement. Le couple se réveille au chant des oiseaux. « Ce n'est pas le gros luxe, mais on est confortable », résume Daniel Dubé. les maisons mobiles restent une aubaine comparativement à bien d'autres types de logements. Les prix ont tout de même augmenté d'au moins 40 % au cours des dernières années, selon plusieurs sources consultées par Le Devoir. Par exemple, la valeur des propriétés récemment mises en vente au domaine Le Marquis, un parc de 429 maisons mobiles de l'arrondissement Saint-Hubert, près de l'aéroport, oscille entre 229 000 $ et 330 000 $, a-t-on constaté. Les propriétaires de maisons mobiles sont nombreux à s'inquiéter pour leur coin de paradis à bas prix. Les terrains sont convoités par des promoteurs immobiliers. En voie de disparition. Un parc de 13 maisons mobiles est ainsi en voie de disparaître dans le quartier Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe. Un promoteur local, le groupe Marcil, a eu le feu vert de la municipalité pour déplacer ses modestes habitations en vue de construire 160 logements sur le site, dont 16 dits abordables. La ville a été sensible dès le début au sort des résidents du secteur. C'est pourquoi l'une des conditions de départ à toute évaluation de projet pour ce site était que le promoteur approche tous les résidents impactés et en vienne à une entente de gré à gré. Certains résidents ont même vu d'un bon œil ce projet puisque le promoteur a proposé une stratégie de relocalisation des résidents à même le projet, indique Jennifer Drouin-Ostigui, directrice intérimaire des communications et de la participation citoyenne de Saint-Hyacinthe. D'autres ont préféré vendre leur maison mobile, ce qui était une bonne occasion pour eux étant donné l'état de détérioration de l'habitation. Le promoteur a fait des approches personnalisées à tous les résidents et ceux-ci s'en sont tous montrés satisfaits, ajoute-t-elle. Au moment où ces lignes étaient écrites, il avait été impossible de parler à des résidents ou aux promoteurs du projet. La ville confirme que le changement de zonage a été approuvé au cours de la dernière année. Inquiétude à Sutton. Les résidents d'un autre parc de maisons mobiles à Sutton sont inquiets. Le propriétaire de leur terrain cherche à développer un projet de 250 logements. La trentaine de propriétaires craint de se faire évincer. Dans une présentation publique faite en 2024 par le promoteur, les maisons mobiles avaient disparu, a rapporté Radio-Canada. Christian Bissonnette, entrepreneur en construction et propriétaire de ces terrains dans les rues Grenier et Beauregard, en plus du terrain de golf adjacent, affirme que les résidents n'ont rien à craindre. Il rappelle que 80 % de la superficie de son projet est inoccupée à l'heure actuelle. À aucun moment on a dit qu'on allait exproprier le monde. Les locataires qui sont là ont des droits. Si on n'a pas d'acceptabilité de nos 35 locataires, on va faire autre chose, dit-il. Le promoteur souhaite que l'ensemble des résidents de la municipalité soient consultés sur son nouveau quartier projeté. Mais le maire de Sutton, Robert Benoît, insiste pour que chacun des propriétaires de maisons mobiles ait une garantie écrite de son droit au logement. Il y a des côtés positifs à son projet, mais on a répété 10 fois, M. Bissonnette, que l'étape zéro, essentielle, c'est d'avoir une entente avec les locataires des terrains, ce qu'il n'a jamais tenté de faire. Le projet est en suspens dans ce village où les prix de l'habitation ont augmenté de 50 % en 3 ans et qui manque cruellement de logements. C'était « Menace sur les parcs de maisons mobiles », un texte de Marco Fortier paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir.
Francis Choignard, le pianiste amoureux. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle paru le 26 janvier 2025 dans le magazine Fugue. À travers les dizaines de concerts qu'il a dirigés en 2024, le chef d'orchestre Francis Choignard a trouvé le temps de revenir à ses amours pour la composition et d'enregistrer Réflexion, son premier album de création presque entièrement dédié à son mari, le chanteur Sam Champagne. Tu débordes de projets en tant que chef d'orchestre. Pourquoi voulais-tu composer un album? Même si je dirige beaucoup de musique classique traditionnelle, je trouve ça important de tendre vers la nouveauté. J'ai toujours espéré devenir compositeur quand j'étais enfant. À 8 ans, je composais au piano. À 12 ans, je suivais des cours de composition et j'ai commencé à écrire de petites symphonies. 2 ans plus tard, j'ai même enregistré un album au piano que personne ne va entendre. Je l'ai jeté, car il ne représente pas le niveau que je recherche. J'ai toujours gardé en tête que j'allais le faire pour vrai. Dans le tourbillon de ta vie, où trouves-tu le temps de créer? Comme on avait réservé une date à la Maison symphonique pour un spectacle qui n'a pas eu lieu, on a pensé profiter de l'espace pour enregistrer mon EP. Des circonstances m'ont poussé à enregistrer le projet que j'avais en tête. Je suis quelqu'un qui travaille bien sous pression. Je me suis donné 1 mois pour le faire dans mes temps libres. Je voulais commencer petit avec un EP de 5 pièces. J'en avais 2 de partiellement écrites, alors je devais les compléter et écrire les autres. En pleine tournée des 4 saisons de Vivaldi en avril 2024, j'étais à l'arrière dans la loge, avant de monter sur scène, je pianotais quelque chose et je demandais l'avis de mes collègues, avant de m'enregistrer et de monter sur scène. Puisque tu côtoies de grands musiciens, de grandes musiciennes, est-ce intimidant de retourner toi-même au piano? C'était plus difficile que je pensais. Je n'ai pas joué sérieusement du piano depuis mon bac, il y a environ 5 ans. Donc ça m'a pris plus de temps pour m'y remettre. Cela dit, ce sont mes propres pièces. J'écris des trucs qui sont faciles pour moi. Même si certains éléments peuvent sembler complexes, ce sont des placements de doigts et des arpèges qui roulaient facilement dans mes mains. Mais est-ce que j'enregistrerais un album de Ravel? Absolument pas. Il faudrait vraiment que je m'y remette. Quand je t'ai interviewé avec Sam l'année dernière, je t'avais senti un peu timide. À quel point la musique te permet-elle de t'exprimer plus librement que les mots? C'est plus fluide pour moi avec la musique. Même les musiciens peuvent le constater. Je n'utilise pas beaucoup de mots en répétition. Je suis très direct et je ne perds pas de temps avec de longues anecdotes pour leur donner une image. Ce n'est pas mon style. Tes 5 pièces sont-elles inspirées par des éléments précis? Coup de foudre, c'est quand j'ai rencontré Samuel. La suivante, c'est un peu mon coming out, avec les émotions d'incertitude et de soulagement après coup. La troisième, c'est un retour à mon enfance, avec un fragment écrit vers 15 ans que j'ai développé aujourd'hui. La quatrième, je l'ai écrite durant la tournée. La dernière était pour Sam. Je l'ai créée pendant les moments difficiles de la pandémie. À vrai dire, la plupart des pièces tournent autour de lui. J'ai ressenti de la mélancolie en écoutant ton album. À quel point est-ce une émotion présente dans ta vie? Je ne suis pas quelqu'un de naturellement joyeux. Je ne m'exprime pas comme ça. Je ne suis pas extraverti, mais plutôt introverti et réservé. Peut-être qu'on l'entend sur le EP. Ce sont des pensées plus internes que j'exprime moins dans la vie. Il y a quand même des points d'excitation dans les compositions. Je voulais être dans le néoclassique sans m'enfermer dans une boîte. Quelles sont tes aspirations avec cet album? Je voulais lancer une aventure de création à long terme. C'est la première fois que je montre mes idées au public qui me connaît davantage comme chef et interprète. Je voulais montrer ma vie et ce qui m'habite. Dans quelques années, quand j'aurai sorti plus d'un album et que j'aurai assez d'œuvres pour offrir un concert complet, j'aimerais aller rencontrer le public avec mes compositions. En 2024, ton entreprise a géré 19 productions différentes, 73 concerts et 8 tournées avec plus de 500 musiciens-musiciennes. À quoi ressemblera 2025? Ce sera relativement semblable, sans une grande tournée comme celle qu'on a faite aux États-Unis l'année dernière. On en développe une autre pour 2026. Cette année, on continue les ciné-concerts et nos productions symphoniques. Je crois qu'on arrive à un certain plateau. On ne peut pas mettre plus de pression sur le marché qui a déjà plusieurs offres culturelles. Depuis l'an dernier, on s'est établi davantage ailleurs au Canada. Pour la première fois cette année, on va aller à Winnipeg et on va devenir plus régulier à Edmonton, Calgary et Vancouver. On veut continuer notre développement à travers le pays. C'était Francis Choignard, le pianiste amoureux, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 26 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Le Canada doit prendre en main sa défense, exhorte la chef d'état-major, un texte de Sandrine Vieira, paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir. Le Canada doit impérativement renforcer ses capacités de défense pour affronter les nouvelles réalités géopolitiques, affirme la chef d'état-major de la Défense, Jenny Carignan. Face aux menaces grandissantes qui pèsent sur l'Arctique canadien, elle exhorte Ottawa à prendre ses responsabilités en matière de défense continentale. Dans le contexte mondial actuel, il faut absolument changer notre posture en ce qui concerne la défense. C'est clair qu'on n'a pas tout ce qu'il faut présentement pour faire face à la menace actuelle et future, dit la générale en chef lors d'une entrevue accordée au Devoir au quartier général de la Défense nationale au centre-ville d'Ottawa. Dans le couloir qui mène à son bureau, les murs sont ornés des portraits de ses prédécesseurs, une vingtaine d'hommes, son portrait étant la seule exception. Un symbole du plafond de verre qu'elle a brisé en devenant la première femme à prendre la tête des Forces armées canadiennes, FAC, à l'été 2024. Lors de son entrée en poste, la chef, originaire de Val-des-Sources, savait qu'elle devait relever des défis majeurs, notamment la reconstitution des effectifs des Forces armées canadiennes, alors en déficit de plus de 15 000 militaires. 6 mois plus tard, elle doit aussi composer avec le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche et ses menaces répétées de faire du Canada le 51e État américain. Or, ce ne sont pas les discours expansionnistes du nouveau président qui l'inquiètent le plus, témoigne-t-elle. C'est le contexte géopolitique international actuel qui nous envoie des signaux comme quoi il faut se préoccuper de notre défense au Canada. Notre géographie ne nous protège plus aussi bien qu'elle le faisait auparavant. Ce n'est pas l'arrivée de M. Trump qui apporte quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'environnement mondial qui a changé et qui nous démontre qu'il faut s'organiser différemment pour notre défense, fait-elle valoir. L'Arctique convoité. Ces dernières années, Moscou a renforcé sa présence militaire dans l'Arctique, notamment en rouvrant des centaines d'anciennes bases militaires datant de l'ère soviétique et en construisant des ports en eau profonde. La région suscite aussi l'attention de la Chine, notamment en raison de ses ressources naturelles et des possibilités en ce qui concerne de nouvelles voies maritimes. Le réchauffement climatique dans la région ouvre l'accès à des zones d'exploitation auparavant inaccessibles en raison des glaces. D'ici 2050, l'océan Arctique deviendra une route maritime de plus en plus viable entre l'Europe et l'Asie pendant l'été. Et même si cela ne se produit pas dans l'immédiat, le gouvernement canadien doit dégager les investissements nécessaires dès maintenant pour assurer sa préparation militaire sur le long terme, affirme Jenny Carignan. Il faut prendre nos responsabilités pour la défense continentale parce que si on ne s'intéresse pas à l'Arctique, dans 5 ans, le trafic va augmenter. Plus il y aura de personnes qui auront accès au Nord, plus c'est une menace à notre souveraineté, prévient-elle, assise au bord de son fauteuil dans son uniforme militaire. En décembre 2024, Ottawa a annoncé de nouveaux investissements pour renforcer sa présence diplomatique dans l'Arctique, notamment avec l'ouverture de 2 consulats, à Anchorage, en Alaska, et à Nuuk, au Groenland, mais il n'a prévu aucune nouvelle somme pour la défense militaire de la région. Parmi les plus grands besoins, la chef d'état-major indique que le Canada doit se doter de systèmes de défense anti-aérienne, des équipements qui n'étaient pas requis dans les années 1990 et 2000, mais qui sont désormais importants, les talibans n'avaient pas de F-18 et d'avions de chasse, des capacités qui pouvaient venir nous toucher par le ciel. Mais ce n'est pas le cas avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Ils ont tous des capacités de missiles balistiques qui peuvent maintenant nous atteindre de très loin. Le bouleversement Trump. La plus haute gradée militaire au pays n'est pas la première à réclamer que le Canada augmente ses dépenses militaires. Avant même de revenir à la Maison-Blanche pour son second mandat, Donald Trump s'est souvent plaint des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, qui ne consacraient pas 2% de leur produit intérieur brut, PIB, à la défense, soit la cible établie pour tous les alliés en 2014. Le Canada est l'un des quelques pays de l'Alliance à ne pas avoir encore atteint l'objectif. En 2024, Ottawa a dépensé 30,5 milliards de dollars, 1,4% de son PIB pour la défense, comparativement à 967,7 milliards, 3,4% du PIB pour les États-Unis. Lors du sommet de l'OTAN en juillet 2024, Justin Trudeau a promis que le Canada atteindrait la cible d'ici 2032. Il n'avait toutefois pas présenté de plan détaillant les dépenses requises pour atteindre l'objectif. Bien que l'exercice soit complexe, Jenny Carignan affirme qu'avec une bonne planification, Ottawa serait tout à fait en mesure d'accélérer son calendrier de dépenses en défense pour atteindre la cible de 2% plus tôt que prévu. On pourrait le faire avant 2032, si on nous donne la marge de manœuvre pour le faire, dit-elle. Cette semaine, le président Donald Trump a toutefois franchi un nouveau cap en demandant aux alliés de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB. Je vais demander à tous les pays de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% du PIB, ce qu'elles auraient dû être il y a des années, a annoncé le président dans son premier grand discours au Forum économique mondial de Davos. Si elle admet que le ton à l'égard du Canada est nouveau, Jenny Carignan assure toutefois qu'au-delà de la joute politique, les relations militaires avec ses homologues américains restent extrêmement solides. Avec chaque nouveau gouvernement, il y a des changements de directive et de politique. On va s'adapter en conséquence selon ce que M. Trump pourrait décider de faire. C'était « Le Canada doit prendre en main sa défense », exhorte la chef d'état-major. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir.